Et maintenant, il y aura la lecture biblique dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 6, lu par Catherine Meyer.
Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut, dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Oui, répondit-il. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et le Seigneur reprit. Je suis allée un peu trop loin. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu.
Voilà, bonjour. Effectivement, je m'arrête là dans le texte parce que j'aimerais qu'on le reprenne. Qu'on médite sur ce que Dieu va dire à Moïse tout à l'heure. Un texte qu'on a déjà lu une fois, je crois, au début de cette année, un texte sur lequel il m'est aussi arrivé, je crois, de donner un message dans ces lieux, mais il y a pas mal de temps. Alors, qui est ce Moïse ? Ce Moïse qui se retrouve là dans le désert avec cette expérience assez extraordinaire, c'est un homme qui a deux cultures. Issu d'un peuple émigré en Égypte, qui est dans un moment assez difficile où il est perçu comme une menace. D'ailleurs, c'est des choses qui résonnent aussi aujourd'hui, des gens qui sont perçus comme une menace chez nous. Alors, ils sont soumis à toutes sortes de vexations, etc. Mais lui, de manière miraculeuse, en tout cas extraordinaire, se retrouve élevé à la cour d'Égypte, qui est donc vraiment le lieu de la plus grande civilisation de l'époque. Alors, c'est un homme à deux cultures, et puis en plus, il a un caractère vraiment passionné de justice, et qui supporte absolument pas de voir l'injustice. D'ailleurs, ça lui réussit pas trop bien, parce que le récit d'avant nous raconte qu'à trois reprises, il a essayé de... il a mis en œuvre sa passion de la justice, en essayant de faire justice, ça commence pas très bien parce que ça commence par le meurtre d'un Égyptien qui était en train de battre un de ses compatriotes. Et puis le lendemain, il veut jouer les médiateurs entre deux de ses compatriotes à lui qui étaient en train de se bagarrer. Puis il découvre que son acte du jour précédent est connu. Et voilà qu'il se retrouve à s'enfuir et se retrouver dans le désert. C'est d'ailleurs un peu pour ça que là, c'est dans le désert qu'il va rencontrer Dieu. Donc, ça ne lui a pas trop réussi, sa passion de la justice, jusque-là. Notez que dans le désert, il y a une troisième reprise, il met en œuvre son désir de justice. Cette fois, ça lui réussit mieux, parce qu'il prend la défense d'un groupe de jeunes filles qui viennent chercher de l'eau. Alors, ça se termine par un mariage, donc voilà, ça réussit un peu mieux. Mais n'empêche qu'il est toujours là dans le désert. Après avoir élevé la cour d'Égypte, ce n'est pas particulièrement une réussite. Eh bien, c'est à ce Moïse que Dieu va se révéler. Et ce Moïse qui est, historiquement, quelque part, le fondateur du judaïsme. Et ça se retrouve dans les textes. Toute la foi juive est basée sur la loi qui est donnée par Moïse, avec toujours cette mention « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc c'est vraiment une révélation qui a un caractère fondateur. Et ce Moïse, il en est dit quelque chose qui est assez intéressant tout à la fin des cinq chapitres qui forment la Torah, la loi, la partie un peu centrale de l'Ancien Testament, en Israël, il n'y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse. Le Seigneur s'entretenait face à face avec lui. Il l'a envoyé accomplir des prodiges extraordinaires en Égypte, devant le Pharaon, ses ministres et tout son peuple. Et sous les yeux de tous les Israélites, Moïse a agi avec une puissance redoutable. Ce Moïse qui s'entretenait face à face avec le Seigneur. Alors, ces récits, ils ont sans doute été écrits sous la forme qu'on connaît beaucoup plus tard. D'après les études historiques plus récentes, ça semblerait avoir été principalement écrit au temps de l'exil, c'est-à-dire un moment où le peuple d'Israël avait tout perdu. Plus rien, plus de pays, plus de temples, plus de rois à qui se raccrocher. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'enracinent dans quelque chose qui est beaucoup plus profond et permanent que des lieux, des rois et un temple, qui est la parole de Dieu. Avec une foi confiante dans ce Dieu qui les a accompagnés tout au long de leur histoire et qui est là malgré les circonstances apparemment désespérantes du moment. Et c'est ce témoignage de foi qui est l'expérience de la vie d'un peuple, mais qui se cristallise dans le texte que nous avons aujourd'hui à ce moment-là, qui est devenu pour nous la parole de Dieu, la Bible, et sur lequel le Nouveau Testament va se brancher. Alors, je crois que la révélation de Dieu à Moïse dans ce texte nous dit quelque chose d'assez fondamental, d'une part sur qui est Dieu, mais aussi sur notre vocation, que ce soit notre vocation d'homme, notre vocation de chrétien, notre vocation d'église. Alors, j'aimerais qu'on regarde, j'espère que la technique va marcher, parce que j'ai essayé de le mettre un petit peu sur un écran de manière à voir comment le texte s'organise. Alors, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte, dit Dieu. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Et si on regarde un peu mieux ce qui est dit, il y a trois verbes là-dedans. J'ai vu ce qui se passe. J'ai entendu. Je connais leurs souffrances. Là est tout un paradoxe assez difficile à croire, en fait. On y est tellement habitué, peut-être, qu'on ne s'en rend même plus compte. Ce paradoxe d'un Dieu qui est créateur, qui est infini, qui est transcendant, enfin tout ce que vous voulez, et qui cependant s'adresse à Moïse, mais aussi à nous, de manière personnelle, qui voit, qui entend et qui connaît. Et quand on dit connaître, ça veut dire qu'il voit à l'intérieur, il ne voit pas seulement les circonstances, il voit ce qu'il y a en nous. Je pense à un bouquin assez intéressant que j'avais lu qui s'appelle « La mélodie secrète » qui est écrit par un astrophysicien vietnamien qui s'appelle Trinh Xuan Thuan. C'est un livre dans lequel cet astrophysicien qui a un arrière-plan bouddhiste découvre à travers son étude de l'astrophysique et en particulier de la théorie du Big Bang l'idée d'un dieu ou d'un principe créateur dans l'univers. Et c'est un livre qui a été écrit il y a déjà plus de 20 ans, mais j'ai vu dans une interview qu'il a fait récemment dans le Monde des Religions qu'il expliquait qu'en somme sa découverte, c'est un peu en dehors de sa foi bouddhiste, puisque dans le bouddhiste, il n'y a pas de créateur. Donc il découvre quelque part dans l'univers une idée d'un dieu créateur qui est étrangère à son propre univers religieux, ce que je trouve intéressant. Mais on n'arrive pas au dieu de la Bible. Ça reste un dieu impersonnel qui, s'il est créateur de l'univers, ne peut pas être à la fois celui qui pourrait être en communication avec nous. Et c'est là que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il y a dans le message biblique. Et déjà, le psalmiste s'étonnait de ça, au psaume Voilà. C'est peut-être un texte que beaucoup savent par cœur, mais dans le psaume 8, juste le lire, 4 à 5, « Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ?» Eh bien oui, ce texte nous dit que Dieu s'intéresse à nous personnellement. Mais qu'est-ce que Dieu a vu ? J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups. Je connais leur souffrance. C'était un texte très fort qui nous rejoint dans quelque chose qui est un peu notre interrogation fondamentale. Et puis je trouve la question qui revient peut-être le plus souvent quand on discute avec les gens, c'est la question du mal et de la souffrance. Alors parfois c'est une porte d'entrée pour la foi, puis parfois c'est vraiment un obstacle ou une occasion de révolte contre un Dieu qui permet la souffrance. Là aussi, je pense au bouddhisme, parce que c'est vrai que j'ai vécu un certain temps dans ce milieu-là. Et le bouddhisme, c'est une philosophie qui se construit à partir d'une réflexion sur la souffrance. Hein, c'est, selon la tradition, le Siddhartha, qui est le personnage historique du Bouddha, était élevé à la cour, et un jour, il découvre dans le monde extérieur, il découvre la maladie, la misère, la mort. Et c'est un tel choc pour lui qu'il entre dans une réflexion, une méditation là-dessus. Et quelque part, sa méditation est la recherche d'une cause de la souffrance et d'une voie qui, par la compréhension des causes, permet d'y échapper. C'est peut-être un petit peu réducteur ce que j'ai dit, mais c'est un petit peu dans ce sens que ça va. Dans la Bible, la question de la souffrance et du mal est abondamment discutée. Mais à mon sens, on ne nous donne pas d'explication. Et je crois qu'on va voir justement dans la suite du texte comment ça se passe. Je suis donc descendu, dit Dieu, pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un beau pays, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Puis je saute un petit peu la suite là. Alors là, je trouve intéressant, là aussi, si on regarde les verbes, c'est « je suis descendu » déjà. Là encore, ce Dieu qui se révèle comme celui qui descend vers nous, j'aime bien ce mouvement, je trouve que c'est très fort, parce que c'est un petit peu le contraire de ce que sont beaucoup de démarches religieuses. Dans beaucoup de démarches religieuses, on essaye de monter vers Dieu. Là, c'est le contraire, c'est Dieu qui descend vers nous. Il n'est pas question de chercher, nous, à nous diviniser, mais d'accueillir ce Dieu qui est descendu et qui nous rejoint là où nous sommes. Je suis descendu pour les délivrer, pour les conduire vers, pour les conduire hors d'Égypte et pour les conduire vers un pays. Alors là aussi, il y a une promesse qui est assez magnifique. Mais en même temps, ce n'est pas une promesse de facilité. Parce que ça, on le voit bien quand on lit la suite de l'histoire, puisque dans la suite de l'histoire, déjà, il a fallu tout un trafic de plaies d'Égypte, hein, ces 10 plaies d'Égypte qui sont bien connues, jusqu'à ce que les Israélites puissent sortir. Dès le départ, ça se passe assez mal, parce que dès que Moïse essaye de faire quelque chose, il se ramasse les reproches de ses compatriotes qui lui disent « Maintenant que tu as été parlé au Pharaon, c'est pire qu'avant. » Donc voilà, ça ne va pas tout seul. Puis après, quand ils finissent par sortir, il leur faut 40 ans pour arriver jusqu'à ce pays. Moïse, lui, n'y arrive pas, n'arrivera jamais. Et puis quand ils arrivent, là c'est le texte qui est derrière les petits points là, c'est un pays qui est habité. Donc l'arrivée au pays, c'est encore pas gagné. Hein? Voilà. Alors, comment est-ce que ça continue, cette histoire ? Voilà, je l'avais mis là. Le pays où habitent les Cananéens, hein, c'est déjà en filigrane quand même des problèmes assez compliqués. Voilà, alors l'acte 3. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment. Alors c'est assez intéressant parce qu'il répète dans le texte. Les cris des Israélites sont montés. Ce constat que Dieu entend. Les cris des victimes des injustices se font entendre. Mais c'est aussi une certitude pour aujourd'hui, que ce soit les victimes de la guerre au Darfour, que ce soit les gens à côté de chez nous qui ont perdu un emploi de manière dramatique, que ce soit des chrétiens persécutés, comme je viens d'entendre ces jours des chrétiens de Saravane qui se sont fait au Laos, qui se sont fait éjecter de leur village d'une manière assez dramatique, ou que ce soit des souffrances individuelles, des injustices personnelles, des problèmes dans des couples, dans des familles, sur les lieux de travail. Ben, tout ça, Dieu le voit. Mais puisque maintenant, ben maintenant quoi? Est-ce que Dieu va agir? Acte 4, maintenant je t'envoie vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Ça semble peut-être presque surréaliste, dérisoire. Je t'envoie, va, fais sortir d'Égypte mon peuple. Envoyer ce Moïse tout seul vers le puissant Pharaon, qui est le roi d'Égypte. En tout cas, la première chose que Dieu fait, c'est d'envoyer quelqu'un. Et bien sûr, Moïse répond, qui suis-je? Mission impossible. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Là, je n'ai pas mis les textes, hein, mais je les raconte simplement. Il lui dit deux choses. Il lui dit, je suis avec toi. Et quand il lui dit ça, d'ailleurs, c'est parce que c'est à double sens. Donc, je vais quand même le lire. Voilà. 3, verset 14. Dieu déclare à Moïse, je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis, suivant les traductions. Voici donc que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Et ce Dieu, il se révèle d'une manière où on ne peut pas avoir de prise sur lui. Mais avec cette certitude qu'il est, non seulement qu'il existe, mais qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est lui qui l'envoie. Et c'est que sur ça que peut s'appuyer Moïse. C'est même l'identité de Dieu d'être là, d'être présent. Alors, plus loin, ben, Moïse continue à essayer de se défiler, parce qu'il a vraiment des bons arguments pour se défiler. D'ailleurs, il n'est pas le seul à vouloir se défiler. Je pense que ça nous arrive aussi. Moi aussi, des fois, quand je dois préparer un message, il y a des moments où j'aurais envie de me défiler. Mais voilà, une fois qu'on a dit, on a accepté le mandat, il faut y aller. Alors Moïse, il a des arguments béton. Hein. Il explique entre autres qu'il ne sait pas parler. Il dit dans la français courant, c'est dit, je ne suis pas un orateur, je ne l'ai jamais été. Et puis le fait que tu me parles, ça y change rien. Je ne vois pas ce que Dieu lui parle, que tout d'un coup, lui va savoir parler. C'est ce qu'il dit. Alors, Dieu lui donne quoi? Il lui donne un compagnon. Donc Moïse, non seulement il n'est pas tout seul, puisque Dieu est avec lui, mais il ne sera pas tout seul parce qu'il aura son frère avec lui. Alors voilà, je crois que ce que cette révélation nous dit avec une certaine force, c'est... Tout d'abord que Dieu nous rejoint. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous rejoint dans notre situation, qui connaît notre cœur, qui connaît ses souffrances cachées et qui sont en nous. Puis c'est quelque chose qui s'accomplit de manière extraordinaire à travers le Christ, à travers la vie de Jésus, à travers sa mort. Et c'est frappant de penser que la mort de Jésus, celle qu'on rappellera tout à l'heure en prenant la Sainte Cène, c'est pas une mort toute paisible, comme si de toute manière il allait ressusciter dans 3 jours, donc c'est rien du tout. Non, Jésus vit sa mort dans la souffrance et dans l'angoisse, comme un être humain. Et je crois que c'est quelque chose qui montre que dans la Bible, on est appelé à... non pas accepter la souffrance, si vous voulez, mais à l'accueillir et à la traverser, et en tout cas pas à la nier. Alors, deuxièmement, Dieu nous rejoint, il a aussi un projet pour nous. C'est peut-être ce qu'on peut lire à travers ce pays, cette marche vers un pays. Il y a une marche qui est longue, qui n'est pas facile, mais il y a un pays au bout. Il y a une marche longue avec la présence de Dieu. Et puis, finalement, que Dieu nous envoie. La réponse de Dieu à la souffrance dans ce texte, ce n'est pas une explication, c'est que nous sommes envoyés vers notre prochain. Puis au moment où nous nous interrogeons en Église, ou en conseil et en Église, sur quelle est notre vocation notre vocation de chrétien dans notre quotidien, notre vocation d'église dans cette cité de Meyrin ou au-delà, je pense qu'il y a là une réponse possible, peut-être même une réponse essentielle. Notre mission, c'est de rejoindre nos contemporains, et particulièrement dans les lieux de questionnement et de souffrance, d'entendre, de voir, de percevoir, de ressentir ses besoins, ses souffrances cachées, comme Dieu lui-même nous comprend. Je crois que c'est quelque chose qu'on est déjà appelé à vivre en communauté, et je peux dire qu'on le vit, on ne le vit jamais parfaitement, mais c'est quelque chose qu'on vit, il y a des choses qui se passent. Et moi, je suis reconnaissant, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de cette communauté qui m'a aidé à tenir debout par la solidarité vécue à des moments extrêmement difficiles. Et c'est peut-être ça aussi qui rend une communauté rayonnante, quand on voit la solidarité qui peut s'y vivre. Alors, je pense quand même que c'est quelque part le cœur de notre mission. Alors, on fait un programme d'activité pour l'Église, on peut aussi monter des programmes d'évangélisation, mais l'essentiel, c'est dans cette proximité de Dieu qui entre dans notre vécu et qui nous permet d'être proche des autres. Et c'est tout le mouvement que je vois dans ce texte, cette compassion du Dieu qui nous rejoint, qui débouche sur l'envoi de Moïse. Alors bien sûr, cet envoi de Moïse, dans un sens, c'est très loin de nous parce qu'on n'est pas dans une situation qui ressemble à celle de Moïse. Et ça va plus être le Christ que Moïse, notre modèle sur le comment. Mais le fait que Dieu nous envoie, je crois, il est là très présent, il reste valable. Et puis chacun est appelé de manière différente, selon sa sensibilité. Je trouve intéressant quand même que Dieu utilise justement ce caractère de Moïse qui supporte pas l'injustice pour aller délivrer son peuple. Dieu utilise notre sensibilité. Alors notre sensibilité, parfois ça tombe complètement à faux, mais Dieu peut nous utiliser avec nos caractéristiques. Et puis dans cet envoi, il nous assure de sa présence, et puis il nous donne même des compagnons comme il l'a fait avec Moïse. Alors voilà, que ça puisse nous encourager, que Dieu nous renouvelle dans notre être intérieur, dans notre sensibilité, et qu'il puisse aussi nous ouvrir le cœur pour que nous puissions rejoindre nos contemporains et accomplir notre mission. Voilà, que Dieu nous bénisse.